Le reportage du convoi de l'eau 2024 à destination de Mel pour participer aux rencontres et actions contre les mégabassines. On est au troisième jour de ce voyage extraordinaire. Nous sommes une grosse vingtaine à pédaler toute la journée, à braver le soleil, la pluie, pour avancer en douceur, mais pas sans bruit. Il faut le dire à Macron et à tous ces phobiques de l'ennemi intérieur, de l'écoterrorisme, que tout va très bien. Nous vivons une expérience exceptionnelle. Rien ne nous atteint et même pas cette présence des gendarmes qui nous suivent comme des agents de la Stasi à la belle époque de la guerre froide. Nous sommes fliqués, mais pas résignés, et notre convoi avance doucement, mais sûrement. Alors, pour débuter cette journée du lundi 15 juillet à destination de Mel, nous avons dû ranger la ferme, car chez Lucie à Mortagne, on a fait une sacrée soirée. Lucie, c'est cette paysanne boulangère qui nous a accueillis, qui nous a fait du pain et qui nous a organisé une belle fête avec un bal trad. Et on va peut-être un peu l'écouter. On a dansé une partie de la nuit et au réveil, ils étaient toujours là. Deux voitures de gendarmes et quelques militaires cachés dans les vignes à comptabiliser le nombre de tentes. On commence avec une impression de source.
Donc là, ce matin, on va partir et toi, tu as été voir les gendarmes qui étaient juste avant notre campement. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, les gentils gendarmes qui nous suivent depuis samedi, bon, c'est les mêmes qu'hier, donc ils nous connaissent. Ils savent qu'on est 22. Ce matin, ils nous ont pris... Donc, c'est pour à chaque fois notre sécurité, pour notre bien qu'ils nous suivent. Faut bien comprendre ça. Et ce matin, ils étaient cachés dans les vignes et ils nous ont pris en photo à notre réveil pour faire des rapports. Parce que on est toujours cette petite bande de gentils terroristes, en fait. Enfin, de méchants terroristes, en fait. Donc, ils nous ont dit, non, on ne va pas vous contrôler. On vous a contrôlé hier sur notre zone. Donc, moi, je demande, c'est quoi votre zone, en fait ? Et là, ils me disent, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas si on va être contrôlé ou pas. On n'a de toute façon pas forcément de réponse. Leur mantra, c'est toujours « c'est pour votre sécurité ».
Et toi, tu es en lien avec l'avocat. Est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans ce qui se passe, le fait d'être accompagné par des gendarmes, d'être un peu assigné à être surveillé toute la journée ?
Alors, ce qu'ils me disent, c'est que de toute façon, ils vont nous faire chier tout le temps, puisqu'ils ont cet ordre de la préfecture, donc ils vont être là tout le temps. Et c'est garder votre calme le plus possible et pas commettre d'infraction et voilà. Mais il me dit de toute façon ils sont là pour vous faire chier, ils vont vous suivre tout le temps et vous faire chier. Ouais.
Donc il va falloir tourner la tête quand on va les voir arriver.
C'est ça. Et on n'a pas le choix. Et donc quand on me dit on est libre en France, moi je me sens pas du tout libre. Je me sens contrôlée, je me sens surveillée et ça nous met dans des états. Ça peut nous mettre aussi dans des états de colère, de rage, parce que c'est insupportable. C'est tout simplement insupportable.
Le groupe, il est atteint par cette surveillance policière. Toi, tu trouves, est-ce que les gens ils sont comment ?
Alors, le groupe est atteint et on le prend à la dérision parce qu'on ne sait pas comment le faire. Et pour essayer de prendre de la distance, de la hauteur, et on le prend, on en rigole. Mais pas tous, non. Il y en a certains qui n'arrivent pas encore à prendre cette distance-là et en rigoler. Donc oui, c'est quand même un point, c'est vraiment un gros point noir.
Devant la bouclée, nous parions chanter. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça ? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça ? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça ? Allez les gars, combien vous paye, combien vous paye pour faire ça? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants. On nous attaque, on se défend, désolé si c'est toi qui prends. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, allez paye, combien vous paye pour faire ça? Pense à ceux pour qui tu travailles, qu'on ne voit jamais.
Oui, c'est sûr que je pense qu'on est tous un peu touchés par cette situation-là, parce que en fait, la première chose qu'on voit le matin, après le lever du soleil, c'est les têtes des gendarmes qui dépassent des vignes et qui nous prennent en photo en train de s'habiller, de faire notre toilette. Et ça, en fait, pour moi, ça vient rappeler que quand on parle d'État policier, c'est pas une théorie, c'est pas une grande idée qu'on développe. C'est vraiment la matérialisation d'un État qui dérive et qui dérive encore, et on ne sait pas où il s'arrêtera. Et je pense que depuis Sainte-Soline 2, on observe une pratique qui est commanditée, de vouloir dissuader et de vouloir nous enlever l'envie de se mobiliser. Et moi, j'ai réagi de deux manières. La première, c'est la colère. C'est celle qui, quand je me lève le matin et je vois un militaire qui est en train de me prendre en photo, me dire, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour cette société? Et la deuxième, c'est une réaction qui vient transcender ça et qui vient dire, ok, peu importe le système policier qui est en place, peu importe la répression qu'on va avoir, en fait, on est un collectif en ce moment-là qui faisons le convoi de l'eau. Et de manière générale, on est des collectifs de militants. Et ensemble, on est capable de se donner l'énergie qui surpasse toute cette répression-là. Alors après, je pense que je vais donner un peu la parole à d'autres camarades qui ont vécu ces moments-là. Pas seulement ces moments de répression policière, que ce soit hier, là, dimanche, où on a été pris entre deux ponts par la PSIG pour être contrôlé et fouillé. Pas seulement ce matin, on a eu des photographes au réveil, mais tout au long, l'effet que ça peut procurer d'être suivi par des gendarmes pendant ce convoi.
Notre engagement, votre sécurité. Cette sécurité a pris beaucoup de place depuis le début de notre convoi à vélo. Convoi constitué de personnes qui vont de 8 à 70 ans. Donc un groupe assez hétéroclite qui sommes suivis depuis le début par des personnes en bleu. Donc comme dit plus haut, aujourd'hui on se réveillait d'une sacrée fête. Où, pour ma part, c'était un peu le brouillard des 70 plus 60 km qui se sont accumulés, plus l'énergie folle dépensée à danser sur le magnifique baltrade qui nous a été offert chez Lucie. Et ça restera ancré dans ce convoi-là. Cette sécurité a pris beaucoup, beaucoup de place, et notamment dès le réveil de ce matin, où on a été suivi, et une sécurité qui, juste pour prendre l'exemple de la sécurité routière, une voiture qui te colle à moins d'un mètre, pour du coup la dernière personne du convoi qui t'a à vélo, ça porte plus préjudice qu'autre chose.
Vous avez bien compris, on est sur la clé des ondes, avec une lampe frontale, sur une tente de camping en presque direct, en presque public. Et on se raconte un peu cette assignation à résidence, cet harcèlement policier, qui est qu'on est une petite vingtaine à faire du vélo et on a 4 voitures de gendarmes qui nous suivent, qui nous fouillent toute la journée et personne ne sait où est le sens de cette action, mis à part que ce n'est que le sens d'une police politique qui est là pour faire pression à des militants qui ont tout simplement envie de poser les bonnes questions aux bons endroits.
Oui, je pense qu'on a besoin un peu de partager ça sur les ondes, de partager ça avec vous et avec tous ceux, toutes celles qui ont envie de comprendre en fait que aujourd'hui il est important de dire non à ça pour que demain ça ne s'amplifie pas. Et peut-être tu voulais ajouter quelque chose à ce propos.
Oui, l'astuce. Il y a, il faut le dire, une part de ridicule dans ce que nous vivons depuis ces quelques jours où nous sommes partis à vélo. Nous sommes là, nous tentons une reconnexion au monde paysan, aux pratiques. Nous allons à la rencontre, ensemble. Il faut le dire, nous sommes principalement citadins. Et finalement, nous tentons une ouverture, nous tentons de trouver une voie. Et ce ridicule, il est dans le suivi qui nous est imposé, le suivi quotidien, le suivi permanent.
Est-ce que tu peux me décrire là le paysage à gauche ?
Alors nous bordons sur notre gauche des champs de maïs à perte de vue, qui nous dépassent, donc on ne voit pas l'étendue du champ. Avec en premier plan des pylônes électriques de taille moyenne qui font le tracé de la route. Et sur la droite, un champ de luzerne en fleurs. Magnifique.
Donc là, on voit aussi, on passe devant un potager.
Des tomates, des courgettes, des petites framboises.
C'est frappant parce que pendant tout le convoi de l'eau, je pense qu'on a enchaîné sur des monocultures et des monocultures à chaque fois. Des petits espaces comme ça de maraîchage, c'était des respirations pour le modèle qu'on prône. Et là, un magnifique rosier. Des roses d'une couleur que j'arriverai pas bien à décrire.
Jaune pâle, rosé, ocre.
C'est vrai que j'aurais parlé peut-être de jaune habité en tout cas. Parce que je sens qu'il y a un peu d'espérance dans ces roses qui nous font
signe. Un noisetier pourpre sur notre gauche. Magnifique. Yopi.
Et voilà, on est reparti pour un champ de maïs. Je crois que c'est...
C'est le même qu'on a contourné, je pense.
On a du mal à se dire que c'est le même parce que ça fait quand même quelques minutes qu'on roule et on l'a pas dépassé quoi. On est toujours en train de le longer.
Bah ça donne l'impression que la région est un champ de maïs entier. Hein.
Malgré l'ampleur décuplée des mobilisations anti-bassines, le gouvernement s'obstine à passer en force. Cette bataille emblématique pour l'eau en tant que bien commun et pour l'agriculture paysanne est encore à gagner. En ce mois de juillet, alors que les regards du monde entier se porteront sur la parade fluviale des Jeux Olympiques à Paris, il s'agira de nous allier pour remporter la plus essentielle des épreuves. Trouver les gestes collectifs pour l'eau, pour que l'eau soit enfin protégée dans ce pays et partout ailleurs. Nous appelons donc de nouveau à converger autour de la Venise verte, en péril du marais Poitevin, des étendues agricoles épuisées du Poitou, mais aussi de ses multiples repères et terres toujours fertiles. Préparez-vous à faire fleuve, par équipe, par rivière et par bassin versant.
Bassines en berne. Les méga-bassines sont des cratères géants d'une surface allant parfois jusqu'à 18 hectares, recouverts de plastique et remplis d'eau pompée dans les nappes phréatiques. Elles sont la dernière fuite en avant d'un modèle agro-industriel qui dégrade et assèche depuis trop longtemps nos milieux de vie. Elles sont avant tout conçues pour des cultures nécessitant une irrigation intensive au profit d'une petite minorité d'agriculteurices et aux dépens de formes de stockage et de partage de l'eau vertueuse, bénéficiant à l'ensemble des agriculteurices, de la population et de la biodiversité.
L'été dernier, le scandaleux financement des bassines à 70% par de l'argent public a été vivement critiqué jusque par la Cour des comptes. Celle-ci constate que le parti pris gouvernemental pour ces infrastructures retarde dangereusement le changement nécessaire des pratiques agricoles. Au sein même des institutions censées être en charge de la protection qualitative et quantitative de l'eau, les critiques apparaissent au grand jour et le doute sur la viabilité des bassines s'installe parmi les irrigants.
Les luttes en cours. Les luttes en cours sont en passe d'enterrer une bonne partie des bassines initialement projetées. Au cours de ces trois dernières années de mobilisation, 4 bassines déjà remplies ont été jugées a posteriori définitivement illégales. 15 projets ont été annulés par le tribunal après avoir été jugés inadaptés au changement climatique. 14 autres se sont vues mises hors d'état de fonctionner et des grilles de chantier continuent de tomber. De nombreuses bassines ont déjà été abandonnées grâce à la pression exercée par l'opposition locale.
Et pourtant, ils s'entêtent. Le ministre de l'Agriculture s'est récemment risqué à annoncer un objectif de construction de 100 nouvelles méga-bassines d'ici la fin de l'année. Aux abords du marais Poitevin, malgré les recours juridiques toujours en cours contre les 16 mégabassines, les chantiers continuent péniblement. Sur fond de conflits d'intérêts, deux d'entre eux ont démarré ces derniers mois à Priard et Épane, tandis que celui de Sainte-Soline a stagné tout l'hiver. Le gouvernement cherche, dans le cadre de la loi d'orientation agricole, à faire reconnaître un intérêt général majeur à ces infrastructures afin de court-circuiter les recours juridiques victorieux et piétiner les protections environnementales. Sa réponse sélective au mal-être agricole, exprimé cet hiver, a été de favoriser, au bénéfice des patrons de l'agro-industrie, les dispositifs et filières qui empoisonnent les agriculteurs plutôt que de leur assurer un travail et un revenu digne. Il continue ainsi de se soumettre à des intérêts privés plutôt que de défendre réellement les paysannes et les biens communs. Il finance la stérilisation des terres plutôt que le développement d'une agroécologie seule à même de faire la face à la crise climatique. C'est bien à cette transition que les subventions publiques devraient aujourd'hui être accordées. Mais ce sont les préfets qui, dans un élan de crispation autoritaire, font aujourd'hui appel à des décisions de justice et passeront en force les projets de méga-bassines promis aux grandes industries, coopératives et négociants partout en France.
Vers un moratoire. Il nous faut donc pour l'heure mettre en œuvre un moratoire populaire sur le terrain et se rassembler pour en porter la nécessité. Alors que la lutte anti-bassine s'étend désormais à d'autres régions du pays et au-delà des frontières, l'enjeu de cette mobilisation est celui d'un tournant historique. Si nous les arrêtons ici, nous les arrêterons ailleurs. Si le système bassine ne vient pas prolonger l'impasse agro-industrielle, les filières d'export de maïs hybride, l'élevage hors sol, les monocultures gavées d'intrants, nous pourrons enfin cheminer ensemble vers les formes d'agriculture qui protègent les terres et les eaux.
Plus d'un an après, la convergence à Sainte-Soline se retrouvait de nouveau massivement dans le Poitou cet été. C'est, pour l'ensemble des forces sociales et écologistes, l'occasion de démontrer à ce gouvernement qu'il ne peut espérer arrêter un élan vital par la répression. Du 16 au 21 juillet, dans notre pluralité de présences paysannes, syndicales, habitants, habitantes, de tout âge, des campagnes et des villes, nous réinventerons nos façons de manifester et de nous protéger. Nous retrouverons mille manières de marquer notre refus des projets de bassines.
Et vous avez forcément demandé le programme de ce village de l'eau. Demain, on va commencer le matin avec la qualité de l'eau et l'agriculture. On va parler de la pollution des nappes à l'hydrologie régénératrice. L'après-midi, si vous êtes encore là ou si vous venez d'arriver, on va parler de sécheresse et politique d'accaparement de l'eau, avec les impacts et les soulèvements en Espagne et en Amérique latine. Mercredi, notamment le matin, on va parler du partage de l'eau, de l'agritech et les résistances dans le bassin du Jourdain. L'après-midi, ça va être les grands barrages, en finir avec ces armes de domination, ces récits de soulèvement, de démantèlement et d'opération Castor. Cette journée sera surtout tournée autour de comment s'organiser pour le partage de l'eau et des terres à l'échelle d'un bassin versant. Maintenant, pour le jeudi 18, on va essayer de comprendre comment percer la méga-bassine et sa filière et vous livrer quelques contre-expertises. L'après-midi, ce sera une explication sur le marché agricole mondial et ses révoltes paysannes. Quelles perspectives nous reste-t-il pour l'agriculture ? Surtout, restez aussi le soir parce que, il me semble, et on l'a bien entendu d'ailleurs hier soir chez Lucie, qu'on aura un groupe de baltrades digne de ce nom, Chak Boom, avec qui on espère danser toute la nuit. Enfin, vendredi et samedi, ça va être la manifaction. Et nous vous invitons à nous rejoindre déterminés pour continuer. Si bien sûr vous avez prévu d'ores et déjà des vacances ou si vous avez des contraintes, n'oubliez pas que la guerre de l'eau et cette mobilisation dépassent juste cette semaine et que vous pouvez nous rejoindre en Gironde notamment sur la lutte contre les lignes à grande vitesse, le GPSO, notamment autour du week-end du 12-13 octobre. Notez la date, c'est le moment de sortir son agenda, car le 12-13 octobre, pour l'événement freinage d'urgence, nous reparlerons de ce projet, cette autoroute ferroviaire de 327 km, qui, loin d'améliorer la mobilité des habitants, permettrait surtout aux personnes capables de se payer un billet de TGV hors de prix, je pense qu'on s'en rend bien compte pendant cet été, de traverser les territoires toujours plus vite, sans rien y voir. Voilà, je pense que 14 milliards d'euros pour détruire les bassins versants, notamment la vallée du Ciron, c'est beaucoup pour pas grand-chose.
J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. Et j'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte.
Ici sur l'herbe, je ne pédale plus. Je vis allongé, le dos reposé, face aux arbres, le vent devient mon allié.
La sieste est profonde. Le vélo a pour vertu de fatiguer les jambes et de reposer l'âme.
Vous l'avez bien compris, on était en presque direct, en presque public pour la Clé des Ondes lors de ce convoi de l'eau. On va remercier énormément de gens, mais surtout Vincent du château Frédignac qui nous a accueillis le premier soir. Et puis après, il y a Lucie, formidable, un personnage qui se bat à faire du pain, à faire des céréales, à avoir des vaches. Et on remercie aussi Vanessa qui nous accueille ce soir à Chermignac avec ses centaines de poules dans des caravanes. C'est absolument génial. Et demain, on va chez Johanna et Thomas dans une pépinière. Et puis après, c'est le village de l'eau. On se retrouve demain sur la Clé des Ondes aux horaires 8h30, 18h30 pour les diffusions. Et nous, on continue à pédaler.
Vous êtes bien sur la Clé des Ondes. C'est le convoi de l'eau.
Vous êtes bien sur la Clé des Ondes. C'est le convoi de l'eau.
C'est le convoi de l'eau.
Vous êtes bien sur la Clé des Ondes. C'est le convoi de l'eau.
Vous êtes bien sur la Clé des Ondes. C'est le convoi de l'eau.
Vous êtes bien sur la Clé des Ondes. C'est le convoi de l'eau.